Je vais présenter très rapidement l'orateur suivant, donc Philippe Hoffmann, qui est directeur d'études à la section des sciences religieuses de l'école pratique, dont il a été doyen pendant des années. Il a aussi dirigé l'ABEX ASTEC, et je tiens à le souligner, parce que ça a été une très lourde charge jusqu'en 2019 qu'il a accomplie pour la communauté. Il préside la section 35 du CNRS. Et puis alors, mon cher Philippe, il faudra mettre à jour votre fiche, parce que dans votre UMR, donc le laboratoire d'études des monothéismes, il y a écrit que vous avez été récemment élu membre correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Alors, c'est déjà une actualité très ancienne, puisqu'en réalité, depuis le mois de janvier, Philippe Hoffmann est devenu membre de l'Académie. C'est juste une petite... quelque chose qui m'a amusé. Et donc, Philippe Hoffmann va maintenant nous parler de la notion d'équité dans la pensée grecque, et je lui passe la parole sans attendre.
Mesdames et messieurs, chers collègues, si la question de la justice, dit Kaiosune, est une question massive, un thème aisément identifiable dans le corpus philosophique grec, de l'Antiquité classique jusqu'à la période tardive, la notion d'équité, qui, je tenterai de vous l'expliquer, n'a pas d'exact correspondant linguistique en grec, cette notion d'équité n'est pas aussi centrale, sauf, nous le verrons, dans le corpus aristotélicien. Les principales doctrines de la justice, celles de Platon et des néoplatoniciens, celles des stoïciens, se sont concentrés sur des analyses que vous me permettrez de rappeler très brièvement en quelques mots afin de baliser ce vaste domaine. On sait que Platon, dans la République, fait de la justice le lien harmonieux de la phronesis, vertu de l'intellect, de l'andreia, vertu du thumos, et de la tempérance qui régit le principe de désir, et qu'il pose une analogie entre l'âme et la cité. Dans la République, non plus d'ailleurs, sinon très fugitivement dans les lois, Platon ne consacre pas d'attention à ce que nous pourrions considérer comme la notion d'équité. Dans la tradition stoïcienne, je vous renvoie aux textes que j'ai fait figurer, aux quelques textes que j'ai fait figurer à la page 4 de mon exemplier, choisissant par goût personnel un certain nombre de passages chez Marc Aurèle. Dans la tradition stoïcienne, il apparaît que les trois thèmes fondamentaux, les trois topoi définis par Épictète qui servent à la pratique des exercices spirituels pratiqués par Marc Aurèle, ces trois thèmes fondamentaux présente évidemment la discipline de la tendance correspondant à l'éthique et à la politique, mais celle-ci est orientée de manière très générale vers ce que l'on appelle les koinonikai praxeis, les actions qui sont menées dans la perspective de la communauté humaine, dans la conscience de la parenté rationnelle qui unit les êtres humains, et il ne s'agit jamais de réflexion sur l'équité. Dans les portraits élogieux d'Antonin Lepieux, que je vous ai rappelé, que l'on trouve dans le premier livre des pensées ainsi que dans le livre 6, l'on observe la mention de la justice de l'empereur, dans le premier texte notamment, ce qu'il y avait d'inflexible dans sa manière de répartir à chacun selon son mérite. To aparatreptos eisto kat axian aponemetikon ekasto, mais il s'agit simplement de la définition stoïcienne, d'une des formulations de la définition stoïcienne de la justice. Si l'on fait encore un pas vers la fin de l'Antiquité, la complexe doctrine néoplatonicienne des vertus, qui est illustré par l'éloge prononcé en 486 par Marinus pour le premier anniversaire de la mort de Proclus et intitulé « Proclus ou sur le bonheur, Proclus et Peri Eudaimonias », cet éloge comporte un développement très important sur les vertus politiques de Proclus, où l'on note un souci de rendre à chacun son dû, mais cela ne va pas très loin. Je vous cite rapidement ce texte, c'est mon texte numéro 6 au bas de la page 4. Parfois aussi, le philosophe lui-même se mêlait aux délibérations politiques, il assistait aux assemblées publiques sur les affaires de la cité, donnait son avis avec sagesse, emphronos, adressait des requêtes au gouverneur pour défendre le droit, hyper dikaion pragmaton, et non seulement les exhortait, mais d'une certaine façon, en usant de la liberté de parole, la paresia, propre à un philosophe, les contraignait à rendre à chacun son dû. To prosekon ekasto aponemein. On ne trouve dans l'éloge de Proclus rien qui se rapproche de ce que l'on peut considérer comme l'équité. Ayant essayé de passer au peigne fin le corpus philosophique grec jusqu'à la littérature tardo-antique, je n'ai pas trouvé grand-chose, sauf, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est la matière de mon texte numéro 5, dans la vie de Plotin par Porphyre, où nous verrons que l'objet équité est présent, même s'il n'y a pas de mot qui le désigne, à travers la mention d'une activité d'arbitre que Plotin, pendant très longtemps, a exercée à Rome. J'y reviendrai plus tard, en espérant avoir le temps. C'est en définitive, dans l'œuvre d'Aristote, de manière principale et de manière massive, dans l'éthique à Nicomaque et dans la rhétorique, que l'on trouve une réflexion extrêmement élaborée sur ce que, faute de mieux, nous allons nommer équité, dans sa relation avec la justice et avec le droit. Les textes d'Aristote, que je vous propose donc de lire et de commenter après bien d'autres, correspondent assez bien au titre du colloque, l'équité hors du droit, encore que, comme nous le verrons, la loi n'est jamais très loin. Mais avant de passer à une lecture commentée, qui sera assez rapide malheureusement, des textes d'Aristote, je voudrais poser une question d'ordre linguistique, d'ordre philologique. Quel mot grec correspond à ce que nous appelons équité ? Par curiosité, je suis allé chercher dans ma bibliothèque le vieux dictionnaire de thèmes grecs que j'utilisais notamment en préparant l'agrégation. J'ai cherché équité et j'ai trouvé epieikeia. Mais comme nous allons le voir, ce mot qui est probablement le meilleur candidat pose un certain nombre de difficultés. Parce qu'au fond, epieikeia, que l'on peut rapprocher de eikos, ce qui est vraisemblable, ce qui est raisonnable, epieikeia est en grec un mot extrêmement général et extrêmement plastique, qui, dans nombre de contextes, signifie simplement une excellence, le fait d'être et de tenir des propos, d'avoir des attitudes raisonnables, et assez souvent, epieikeia est rapproché tout simplement de agathos. C'est une excellence, la qualité de l'agathos, et c'est au fond les situations et les contextes qui permettent, dans un certain nombre de cas, de restreindre la signification en direction de ce que nous appelons équité, ce qui pose immédiatement, évidemment, une question. La projection, en quelque sorte, d'un concept romain, d'un concept moderne sur les textes grecs et sur la littérature grecque, n'est-elle pas problématique ? En tout cas, et ce sera le cœur de mon propos, je voudrais vous faire part d'une observation, d'une gêne aussi, parce que depuis un certain nombre d'années, dans la littérature sur Aristote et dans les traditions d'Aristote, le mot épieikeia, qui habituellement correspondait à l'équité, c'est par exemple que ce que l'on trouve en consultant la traduction, qui est toujours fort utile, la vieille traduction de Tricot, eh bien, le mot épieikeia tend à être remplacé par un mot français très problématique étant donné son caractère général et vague, qui est honnêteté. Cette décision de traduction a été prise par Richard Bodéus dans sa traduction par ailleurs excellente de l'Éthique à Nicomaque parue en 2004. Et ce choix de traduction a été suivi, non sans une légère hésitation, par Pierre Chiron dans sa nouvelle traduction de la rhétorique d'Aristote parue en 2007. Voilà. Donc, nous examinerons ces textes. En tout cas, j'insiste sur le fait que la tradition des historiens de la philosophie identifie un mot, un concept, épieikeia, comme l'équivalent de équité. Alors, je crois qu'il faut insister sur le fait que sémantiquement, la notion qui me semble la plus précise est la notion de ce qui est raisonnable. Ce qui est raisonnable, il faut rapprocher ce mot peut-être de l'expression katato eikos, ce qui est raisonnable, ce qui est vraisemblable, ce qui est communément admis dans une société, dans une communauté. Ce qui permet d'admettre que l'épieikeia implique aussi une forme de reconnaissance sociale au sein de cette communauté. Ce qui est très gênant pour l'historien des mots, c'est que le terme apparaît très abondamment dans le corpus platonicien et dans la littérature philosophique. J'ai fait une enquête dans la littérature philosophique tardo-antique, par exemple, au VIe siècle, dans la vie d'Isidore par Damasius, qui nous est parvenu de manière très fragmentaire, où le terme apparaît à de nombreuses reprises, sans néanmoins que le contexte permette de décider qu'il s'agit de l'équivalent de l'équité. Alors, je voudrais maintenant en venir au texte et tout simplement faire avec vous des lectures. C'est principalement, donc, dans le corpus aristotélicien, que épieikeia, semble-t-il, se fixe momentanément. Deux textes sont centraux, ce sont mes textes numéro 2 et numéro 3. Le premier est un passage très connu de l'Éthique à Nicomaque, livre 5. Le livre 5 de l'Éthique à Nicomaque est consacré tout entier à l'analyse de la notion de justice. Et le deuxième texte, qui aussi est très connu et complète très heureusement le texte de l'Éthique à Nicomaque, et dans le premier livre de la rhétorique, 1.13. Donc ce sont mes textes 2 et 3. Et j'ajouterai à cet ensemble de textes un passage des topiques que j'ai brièvement cité à la fin de mon dossier 2, donc c'est à la page 3 de l'exemplier, un texte des topiques qui est très intéressant. Alors, tout semblerait clair. Donc, admettons que, conformément à une certaine tradition académique, épieikeia soit l'équivalent de la notion d'équité. Ce qui est embarrassant, c'est qu'un débat d'ordre philologique qui vient compliquer la tâche de l'interprète, a été soulevé, comme je le disais il y a un instant, mais je vais aller un petit peu plus loin, par Richard Bodéus. En effet, contre le consensus établi, représenté comme je l'ai rappelé par Tricot, ou encore par une étude essentielle de Jacques Brunschvicg publiée en 1996 et dont je vous ai donné la référence à la fin de mon dossier, de mon texte 2, Richard Bodéus, donc dans sa traduction publiée en 2004, déplace la notion d'équité du côté du mot grec isos, ison, versus Anissos ou Anisson. Ce qui est extrêmement intéressant, à mon avis, est très problématique, mais extrêmement intéressant, parce que cela recoupe évidemment toute la question qui vient de nous être décrite par Dario Mantovani, qui est la question de la relation entre équité et égalité. Alors, comme nous le verrons, en examinant mon texte 1, cela implique évidemment une toute autre analyse. Si on traduit isos, ison par équitable, nous sommes entraînés alors dans des considérations que je tenterai de vous expliquer et qui modifient complètement le visage, la perspective de l'équité grecque, de l'équité aristotélicienne. Nous allons donc nous trouver en face de deux analyses concurrentes, l'une représentée par mes textes 2 et 3 et l'autre par le texte 1, que je vous propose d'examiner au risque de transformer en séminaire ce qui devrait être plutôt une communication. Cela pose en tout cas une question très intéressante et je pense évidemment aux problématiques ouvertes par Barbara Cassin, par la question des intraduisibles, qui est la question de la traductibilité de Epieikeia et de la correspondance que l'on peut ou pas établir entre un lexique moderne, contemporain ou romain même, et d'autre part le lexique grec. Alors commençons, si vous le voulez bien, par mon texte 2 que je lis à partir d'à peu près du milieu. Et dans ce texte, nous allons rencontrer fondamentalement deux idées. La première, c'est que ce qui est epieikes est un correctif de la loi dont l'universalité inévitable ne peut anticiper le détail des situations multiples. Et nous rencontrerons une comparaison très mystérieuse avec la règle de plomb de Lesbos, mais aussi, ce qui est plus clair, avec la pratique du décret. Le deuxième intérêt de ce texte est qu'il y a une description non seulement de la notion d'epieikeia et d'epieikes, mais de l'homme qui possède un état fondamental, un état moral fondamental, une hexis, c'est-à-dire de l'homme epieikes. Et celui-ci apparaîtra, je donne tout de suite le mot, comme le mot grec, comme elatotikos, hein, elatotikos, c'est-à-dire celui qui est porté, mot à mot, celui qui est porté vers le moins, ce qui signifie, au fond, une forme d'indulgence. Nous allons apercevoir que l'epieikeia est indissociable d'un état d'esprit, d'un état moral du sujet, porté à une compréhension des situations singulières et à ce que nous pourrions à peu près qualifier d'indulgence. Alors, je vais vous proposer quelques lectures commentées. Alors, ce que je vous cite là, c'est la traduction de Richard Bodeus. Donc, j'ai respecté, si vous voulez, le choix qui a consisté à abandonner la traduction de Epieikes par équitable au profit d'une traduction problématique, me semble-t-il, qui est la traduction par honnête. L'avantage étant qu'un mot grec vague et général est traduit par un mot français lui-même vague et général, mais l'impression, vous allez le voir, que nous retirons, et que nous avons quelques peines à, au fond, retrouver ce qui nous semble être l'équité. Enfin, je vous lis la traduction telle qu'elle est. « Juste et honnête, dikaion kai epieikes reviennent au même, et bien que les deux choses soient vertueuses, la supériorité revient à ce qui est honnête. Hein? Amphoin spoudaioin ontoin » Vous remarquerez ici un usage du duel, Creiton to Epieikes. Le texte s'attache à décrire l'aspect par lequel l'EPI à IKEA est au fond supérieur à la justice. Mais ce qui produit l'embarras, poursuit Aristote, Aporian, c'est que l'honnête, tout en étant juste, n'est pas ce que prescrit la loi. Là, nous saisissons l'EPI à IKEA à côté du droit, à côté de la loi. To kata nomon. Ce n'est pas to kata nomon, mais c'est un correctif de ce qui est légalement juste. Et l'expression la plus importante du texte est epanortoma nomimu dikaiou. Et donc, ce terme va réapparaître, n'est-ce pas ? Là, l'EPI à IKEA a pour fonction de corriger les défauts, c'est-à-dire les manques de la loi universelle. Et le motif est que la loi est toujours universelle. O nomos katolou pas. Or, sur certains points, il n'est pas possible de s'exprimer correctement en termes généraux. Et, à nouveau, Aristote emploie le terme katolou. Ouk oyonte ortos eipein katolou. Par conséquent, dans les cas où la nécessité impose une formule universelle, mais qu'on ne peut la libeller correctement, la loi prend alors en compte ce qui arrive le plus fréquemment. Donc la loi, l'universalité de la loi, est une universalité qui, au fond, se résorbe dans ce qui est une formule bien connue dans le corpus aristotélicien, ce qui est épitopléon. To os epitopleon, sans ignorer ce qu'elle laisse de côté. Alors, le texte utilise un verbe amartanein et ses dérivés qui signifie littéralement manquer le but, c'est-à-dire ce que la loi manque dans son incapacité à prévoir et à décrire tous les cas singuliers, tous les cas particuliers. Elle n'en est pas moins une loi correcte, car la faute, c'est-à-dire, au fond, le manque, le défaut, la déficience, n'est pas inhérente à la loi ni au législateur, mais à la nature des choses dont il traite, à la physis tou pragmatos, car elle est dès l'abord la matière des actions possibles. Il y a évidemment une belle formule ici, et on practon ule. Chaque fois donc que la loi se prononce en termes généraux et que survient un cas qui, sur ce point, fait exception à la règle générale, para to catolo, donc fait exception à la généralité que la loi, au fond, dans sa puissance et dans sa déficience, enregistre, il est alors normal, dans les limites du détail, que laisse de côté le législateur et que n'a pas touché sa formule trop simple, de corriger le défaut. Et j'attire votre attention sur ce qui me semble être central dans cette description de l'EPI à IKEA, c'est-à-dire « epanortun to eleiften », ce qui est assez difficile à traduire, mot à mot, « corriger, redresser to eleiften ce qui a été laissé de côté par la loi dont l'inévitable généralité implique un manque ». C'est précisément le correctif que le législateur lui-même aurait apporté explicitement s'il avait été dans cette situation. Et au fond, ce correctif, c'est peut-être aussi ce qui nous a été décrit par M. Remer il y a quelques instants. Et qu'il aurait précisé s'il avait su dans un article de loi. Autrement dit, l'application de l'EPI à IKEA correspond à ce qui serait une précision, une amélioration de la loi. Voilà pourquoi ce qui est honnête et juste et vaut mieux qu'une certaine forme de juste. Autrement dit, l'EPI à IKEA est beltion tinos dikaiou. Il y a une excellence, une supériorité de l'EPI à IKEA sur ce qui est simplement juste, mais mieux que la faute entraînée par la formulation trop simple. Et voilà quelle est la nature de l'honnête, un correctif de la loi, et revient la formule « epanortoma nomou » dans les limites où elle est en défaut en raison de son universalité. Car un motif qui fait encore que tout n'est pas régi par la loi, c'est qu'en certains cas, il est impossible de légiférer. ce qui entraîne le besoin d'un décret, d'un psephisma. Ce qui est intéressant ici, c'est le parallélisme structurel qui est proposé entre une réalité juridique qui est le décret distinct de la loi et, d'autre part, la tâche propre de l'épieikeia. L'indéterminé a en effet pour règle un outil lui aussi indéterminé. La matière, l'occasion de l'épieikeia, c'est l'indétermination des situations singulières, des situations concrètes qui obligent en quelque sorte à inventer de façon raisonnable, et nous retrouvons ici un élément sémantique très important du mot grec, à inventer de façon raisonnable une norme au cas par cas, ce qui n'est même plus une norme, mais ce qui est une décision à prendre au cas par cas. Et Aristote introduit ici un argument, une comparaison qui a laissé perplexe des générations d'interprètes, parce qu'on ne sait pas exactement à quoi il fait allusion, tout comme dans les constructions de Lesbos, la règle de plomb. Alors, on ne sait pas exactement ce que faisaient les architectes ou les artisans de Lesbos. En tout cas, il apparaît que cette règle de plomb est plastique. D'après la forme de la pierre, en effet, cette règle de plomb se modifie metakineitai et ne reste pas identique. C'est un peu comme lorsque nous essayons de mesurer une réalité inégale en utilisant un mètre de couturière que nous essayons d'appliquer à tel ou tel objet. De même, le décret s'adapte aux affaires traitées. Ainsi donc, on voit que ce qui est honnête, c'est ce qui est juste et vaut mieux qu'une certaine forme de juste. Alors, le deuxième thème de ce texte, qui sera développé et précisé dans mon texte 3, qui est celui de Rhétorique 1.13, décrit la disposition fondamentale, dans le grec d'Aristote, c'est hexis, c'est-à-dire un état stable du sujet, la disposition fondamentale de l'homme qui est épieikes. Alors, je dois dire que la traduction par l'honnête homme au épieikes ne m'enchante pas du tout, parce que elle, comme une épuisette, si vous voulez, aux mailles trop larges, elle me semble laisser passer la notion. En tout cas, cet homme épieikes est celui qui est porté à décider et à exécuter ce genre de choses. Et les deux mots sont très importants, proaireticos kai praktikos. Donc, l'épieikeia implique une délibération face à une situation singulière et concrète, et corrélativement, elle implique une action, une praxis. Autrement dit, alors, la traduction de Bodéus est pittoresque, l'homme qui n'épluche pas la loi au mauvais sens du terme. Le mot grec est est une création d'Aristote, homé akribodikaios epitokairon. C'est-à-dire, la traduction de Tricot est beaucoup plus claire, celui qui ne s'en tient pas rigoureusement à ses droits, dans le sens du pire. Autrement dit, l'épieikeia va être une forme de liberté généreuse ou de liberté indulgente, si vous voulez, prise par rapport à la lettre de la loi. Et il y a un très bon, au fond, une très bonne glose de Thomas d'Aquin qui traduit, qui comprend epitokairon ad deterius idest ad puniendum. Autrement dit, l'homme épieikes va être celui qui, qu'il s'agisse de son intérêt propre ou qu'il s'agisse de la décision qu'il doit prendre en tant que juge, renoncera, pourrions-nous dire, à exercer toutes les rigueurs de la loi. Et cet homme incline à accepter moins que son droit. Et le terme grec est très intéressant, elatotikos. Il a une disposition à prendre moins que ce à quoi il aurait droit. Bien qu'il ait le secours de la loi, kaiper ekon ton nomon boeton, celui-là est un honnête homme. De même, l'État qui est le sien, l'honnêteté, epieikeia, constitue une forme de justice et non pas un État différent. Donc, la conclusion est que l'epieikeia est dikaiosunetis, c'est-à-dire une forme de justice, ou plutôt une justice particulière, en donnant cette signification à l'enclitique tis. Alors, l'emploi de l'adjectif elatotikos est tout à fait expliqué par le texte parallèle des topiques que je vous ai cité, qui nous dit que l'épiaikeia est une atténuation, elatosis, de ce qui est utile et juste. Et Jacques Brunswick commente dans son édition de la collection des universités de France, commente de manière très claire, c'est l'attitude de celui qui admet qu'on en rabatte sur ses propres droits légaux, ou, s'il les juge, sur les peines légalement applicables aux autres. Le texte de l'Éthique à Nicomaque est heureusement complété par le texte de la rhétorique d'Aristote, 1.13, que je ne lirai que en partie parce que je vois le temps passer. Dans la rhétorique, dans le texte de la rhétorique, nous retrouvons l'idée selon laquelle l'honnêteté se situe para ton gegrammenon nomon, à côté de la loi écrite. Et nous retrouvons ici, au fond, le titre, ou un sens propre possible du titre de notre collègue. On retrouve exactement l'idée selon laquelle l'épiaikeia comble le défaut de la loi écrite, c'est-à-dire qu'elle comble le caractère nécessairement indéfini à Ariston de la loi écrite. La loi ne pouvant pas prendre en considération toutes les situations singulières, laisse échapper, n'est-ce pas, ce que nous pourrions appeler le grain de ces situations et comporte une forme d'imprécision. Alors, je voudrais examiner la deuxième partie du texte parce que elle comporte une description beaucoup plus détaillée et fine de la disposition de l'homme épiaïkès. Et elle présente l'intérêt d'écrire vraiment par le détail la hexis, c'est-à-dire l'état fondamental de l'homme épiaïkès, honnête dans la traduction Chiron, ou équitable, me semble-t-il, dans une traduction qu'il faudrait réévaluer. Alors, dans cette description de l'homme épiaïkès, je crois que nous allons être frappés par l'idée du pardon, exprimée par le terme grec syngnomai. Nous y trouvons aussi une description de cette elatosis, de cette atténuation que nous avons rencontrée dans l'Éthique à Nicomaque et dans le livre 6 des Topiques, donc une description de ce qu'il faut comprendre par cette notion d'elatosis. Et à la fin du texte, nous allons être intéressés, me semble-t-il, par l'opposition explicite entre l'arbitrage, diaita, et le procès, dike, ce qui me conduira à lire très rapidement le texte relatif à l'épiaikeia de Plotin. Alors, je procède à la lecture. Les actes auxquels il faut accorder son pardon, syngnomen et kein, relèvent de l'honnêteté. C'est-à-dire que l'épiaikeia se manifeste dans des situations où il y a des actes face auxquels nous accordons un pardon, une syngnomai. De même que le fait de ne pas mettre sur un pied d'égalité, mais tout issu axion, les erreurs, amartemata, et les infractions au droit, adikemata, non plus que les coups de malchance, atukemata. Alors, le texte est très intéressant, et parce que, aussi pour la théorie du jugement, je veux dire la théorie du droit, parce qu'il distingue entre trois situations clairement différenciés. Ressortissent à la malchance, atukemata, les accidents inattendus, paraloga, et qui ne proviennent pas de la méchanceté, mais apomocterias. À l'erreur, amartemata, les accidents qui ne sont ni inattendus, ni causés par la méchanceté, ossa, me paraloga, caime ponerias. À l'injustice, adikemata, ceux qui ne sont pas inattendus et qui sont causés par la méchanceté, et qui sont apoponerias. Et c'est à partir de cette grille, n'est-ce pas, de cette triade de situations, que va pouvoir se déterminer, se définir l'épieikeia. Alors, je passe sur un développement dans lequel Aristote montre que les actes inspirés par la cupidité procèdent de la méchanceté, et il poursuit, il est honnête aussi, donc il est épieikes aussi, de pardonner aux faiblesses humaines. To tois anthropinois sungignoskein. Et ça, c'est très intéressant parce que cela introduit une notion, au fond, de psychologie morale, qui est la légitimité du pardon. Il est épieikes de considérer non pas la loi pros ton nomon, mais le législateur pros ton nomotheten, non pas la lettre de la loi, ou plutôt sa formulation ton logon, mais la pensée du législateur pros ten dianoian tou nomothetou, ce qui évidemment ouvre l'espace de l'activité d'interprétation de la loi en se mettant dans la pensée du législateur. Non pas l'acte qui est commis, mais l'intention, mais prosten praxin alla prosten proairesin. Non pas le détail, mais l'ensemble, c'est-à-dire l'ensemble, nous dirions, du parcours de vie de celui qui est mis en cause. Non pas ce qu'est aujourd'hui la personne, mais ce qu'elle a toujours été ou ce qu'elle est la plupart du temps. Cela correspond évidemment à la prise en compte de l'ensemble de la personnalité. C'est aussi se rappeler davantage les bienfaits reçus que le mal, dans le cas d'un différent personnel. Se rappeler davantage les bienfaits que l'on a pu recevoir de celui qui est mis en cause. Et les bienfaits reçus plutôt que ceux que l'on a accordés. C'est supporter patiemment l'injustice, préférer être soumis à une justice en mots plutôt qu'à une justice en actes, préférer s'en remettre à l'arbitrage, diaïta, plutôt qu'au procès, car l'arbitre diaïtetes a en vue l'épieikeia, le juré, la loi. Et c'est pour cela qu'on a inventé l'arbitre diaïtetes, pour que l'épieikeia prévale. L'épieikes prévale, oppose to épieikes iscuae. Et cette dernière notation qui met en relation la notion d'épieikeia ou neutre épieikes et d'autre part la pratique de l'arbitrage distingué du procès nous conduit très, très brièvement à une observation que j'ai faite, je vous envoie page 4 à mon texte 5, dans la vie de Plotin par Porphyre. C'est un peu curieux, évidemment, de rapprocher un texte de Porphyre à la fin du IIIe siècle du texte d'Aristote, mais j'ai été extrêmement frappé par l'ensemble du chapitre qui décrit la justice et la générosité de Plotin. Plotin ne se contentait pas d'avoir l'esprit perpétuellement tourné vers l'intellect, vers les dieux et vers l'un, mais il avait une activité sociale extrêmement généreuse, notamment sa maison était remplie de veuves et d'orphelins. Hein, et il était le tuteur d'un grand nombre de ses enfants, garçons et filles, qui lui étaient confiés par des parents à l'approche de la mort. Il était leur phulax, hein, leur gardien. Et notamment, il était leur administrateur, hein, leur tuteur, et il gérait, nous dit-on, avec la plus grande exactitude, c'est-à-dire avec la plus grande honnêteté, leurs biens économiques. Mais ce qui est le plus intéressant pour nous, c'est la fin de ce chapitre. Voilà pourquoi, bien qu'il eût passé 26 années à Rome et arbitré pour nombre de gens les différends qui les opposaient, Pleistois diaitesas tas pros allelus amphis betesseis, il n'eut jamais un seul ennemi parmi les hommes politiques. Alors, le commentaire de ce texte, qui a été publié par un collectif de collègues du CNRS en 1992. Le commentaire fait le point, et je n'ai pas la compétence pour en juger, sur les réalités juridiques romaines concernant les procédures d'arbitrage. Mais ce qui me semble très intéressant, c'est que dans ce portrait élogieux de Plotin, de toute évidence, son élève Porphyre fait apparaître en filigrane, si vous voulez, la notion d'épiaikeia. Et ce texte s'éclaire tout à fait à la lumière du texte de la rhétorique que je viens de vous lire. Alors, ce qui nous conduit aussi à une observation de méthode, c'est que dans la recherche sur une notion, ça c'est bien connu, sur une notion, notamment sur la notion d'épiaikeia, la chose peut se trouver sans que le mot s'y trouve. Alors je terminerai par des observations, rassurez-vous, brèves, au sujet de mon texte numéro 1, de manière à faire apparaître les questions soulevées par un choix de traduction. Alors, le texte numéro 1 concerne une partie initiale du livre 5 de l'Éthique à Nicomaque, et se caractérise par un changement dans les décisions de traduction par rapport à une certaine tradition. Je m'explique. Dans ce texte apparaît en grec les termes isos et anisos, qui habituellement sont traduits par des notions d'égalité. Alors, regardez ma note numéro 1, j'ai reproduit une note explicative de Tricot. Le terme anisos, celui qui rompt l'égalité à son profit, complète pléonectès, celui qui prend plus que son dû. Et le terme isos est aussi, comment dirais-je, traduit par la notion d'égalité. Ce qui est contesté est modifié par Richard Bodéus. Alors, pour que les choses soient claires, je vous propose, en conclusion, de lire simplement deux textes, rassurez-vous, de mon dossier numéro 1. Le premier texte est consacré à l'analyse de l'équivocité de la notion de justice et d'injustice, et a pour but de distinguer deux significations qui ne sont pas superposables, qui ne sont pas identifiables, ce qui est le propre, évidemment, des distinctions de sens dans le cas de termes équivoques. Selon toute vraisemblance, il y a plusieurs manières d'entendre la justice et l'injustice. Pléonakos, eoikédé pléonakos legestai, et dikaiosune kai e adikia. Cependant, vu que les significations sont rapprochées, l'équivocité, dans leur cas, nous échappe. Donc, on va distinguer entre juste et isos, injuste et anisos. Et ce qui est intéressant, c'est que Aristote commence par l'analyse des termes injuste et anisos, par différence, par opposition, on y verra plus clair, dans le cadre du juste et de celui qui est isos. Prenons donc l'injuste. Combien y a-t-il de façons de dire qu'un homme est injuste, adikos ? Eh bien, il semble que soit injuste, ce sont des significations distinctes d'un terme équivoque, et l'individu qui transgresse la loi, paranomos, et celui qui se montre cupide, pléonectès, et inéquitable. Alors, dans ce contexte, il y a une liaison entre le terme anisos et le terme pléonectès. Pléonectès renvoie évidemment à la notion de pléonexia, qui signifie avoir toujours envie de posséder ou d'acquérir plus que ce que l'on a, hein, qui est un des textes les plus importants dans la littérature grecque classique. C'est évidemment dans, intentionnellement, je prends un exemple non philosophique, le dialogue des Athéniens et des Méliens chez Thucydide, où l'impérialisme athénien est expliqué précisément par une attitude de pléonexia. Il s'ensuit évidemment aussi que seront justes, dit Caïos, et l'individu qui respecte la loi et l'équitable. Donc ça, c'est une tradition, un choix de traduction. Donc ce qui est juste, c'est ce qui est légal et c'est ce qui est équitable, tandis que ce qui est injuste, c'est ce qui est illégal et ce qui est inéquitable. Ce qui est intéressant, c'est la suite de l'analyse dans laquelle Aristote explique que l'homme injuste est cupide, il est pléonectès. L'homme injuste ne prend pas toujours trop, ouk aei to pléon aireitai, il prend au contraire trop peu, to elaton, c'est-à-dire moins, quand il s'agit des choses qui, prises simplement, sont des mots, epi ton haplos kakon. Alors l'idée, si vous voulez, est que l'attitude de l'homme pléonectès et anisos, Bodéus traduit par inéquitable, consiste tantôt à vouloir prendre plus que son dû, tantôt, lorsque l'on est confronté à des situations mauvaises ou inquiétantes, à se retirer et à prendre moins. Autrement dit, ce qui caractérise la pléonexia et le caractère anison, c'est le fait d'être tantôt ou à la fois du côté du plus et du côté du moins. Mais le raisonnement d'Aristote est que lorsque vous voulez prendre moins que votre part des maux, c'est parce que vous considérez que ce moindre mal est un bien, et donc cela se revient aussi à la pléonexia. Le raisonnement est un peu complexe, mais il faut bien comprendre qu'il s'agit de définir l'inégalité ou le caractère inéquitable, anison, comme structuré par la perspective d'un plus et d'un moins. Alors, il prend au contraire peu quand il s'agit des choses qui, prises simplement, sont des maux, et c'est parce que le moindre mal semble être un bien d'une certaine façon que, du coup, notre homme passe pour être cupide, car c'est le bien qui est l'objet de la cupidité. Tu agatou estin e pléonexia. En fait, il est inéquitable, anisos. Cette dernière étiquette est en effet englobante et commune. Donc, vous voyez, si l'on admet cette traduction, notre réflexion sur la notion d'équité et d'inéquité va être tirée, au fond, du côté des analyses aristotéliciennes du début du livre 5 de l'éthique à Nicomaque, et d'une certaine manière, la liaison traditionnelle que nous établissons, que l'histoire de la philosophie établit entre équité et les analyses que j'ai préalablement présentées, s'éloigne. Alors, pour terminer véritablement, je voudrais attirer votre attention sur le dernier texte de mon dossier numéro 1, qui met en relation le caractère ison, équitable avec un point d'interrogation, et la notion aristotélicienne de juste milieu. Parce que ce qui caractérise l'inégalité ou l'inéquité, c'est le plus et le moins. Entre le plus et le moins, il y a un juste milieu, mésone, et c'est là que se situe l'égalité ou l'équité. Dès lors que l'homme injuste est inéquitable, anisos, ainsi que son acte, c'est évident qu'il existe aussi quelques milieux, mésonti, qui se distinguent de l'inéquitable. Or, ce milieu, c'est l'équitable. Ou légal. Car dans chaque type d'action où il y a place pour le trop ou le trop peu, il y a place aussi pour l'équitable. En opoia gar praxei esti to pleon kai to elaton esti kai to ison. Si donc ce qui est injuste est inéquitable, c'est-à-dire inégal, penchant vers le plus ou penchant vers le moins, ce qui est juste est équitable. Ou ce qui est juste est égal, relève de l'égal. Voilà bien une chose qui, même sans argument, rejoint l'opinion de tout le monde, et dès lors que l'équitable, to ison, est un milieu, mesone, le juste doit être un milieu. Alors, je conclurai en vous priant de m'excuser d'avoir été sans doute trop rapide sur ces textes. en disant très simplement que nous sommes confrontés à une difficulté de traduction qui est très instructive. Parce que l'hésitation qu'il peut y avoir, je ne vous cacherai pas que personnellement, je pense que les choix traditionnels de traduction sont beaucoup plus clairs. Mais l'état du débat créé par les décisions de Richard Bodéus et de Pierre Chiron nous oblige évidemment à affronter une difficulté de traduction, une hésitation qui offre deux modèles, peut-être, pour penser la notion d'équité. L'intérêt des propositions, je dirais, récentes est de réintroduire peut-être dans la réflexion sur l'équité grecque le problème de sa liaison à la notion d'égalité. En tout cas, quelle que soit l'opinion, la position que l'on puisse avoir, parce que tout ceci est assez aporétique, je crois qu'une conclusion s'impose. C'est la difficulté qu'il y a à localiser dans le corpus philosophique l'équivalent de la notion d'équité telle qu'elle a été esquissée en introduction par Dario Mantovani. Je crois que même si ma position, comme je vous l'ai dit, est une position plus traditionnelle, on doit tenir compte du débat qui a été ouvert par la nouvelle traduction de Richard Bodéus. Voilà, je termine sur cette aporie et je vous remercie.